Voilà, dernier volet de cette série spéciale à l'air libre en avant-goût d'émission littéraire qui débutera à la rentrée sur Grenouille. Une série consacrée aux liens entre littérature et cinéma, particulièrement le cinéma documentaire, puisque nous sommes au film Marseille. Quelles histoires, quelle articulation, quelle inspiration, quelles inspirations formelles ou émotionnelles ce couple cinéma-littérature représente-t-il ou évoque-t-il pour nos invités ? Aujourd'hui, c'est vous, Paul Lochakowski-Laurence, bonjour. Vous êtes éditeur depuis 1970, après avoir été lecteur chez Christian Bourgois. Puis vous avez créé et dirigé la collection Tech chez Flammarion, puis Hachette POL, créé et dirigé également jusqu'à la création des éditions POL en 1983. Et vous êtes au FID en ce moment, cette semaine, pour présenter votre premier film, Sablé sur Sarthe, Sarthe. Bon, nous allons parler un petit peu, mais l'essentiel de la rencontre, je souhaite qu'elle tourne autour de ce lien littérature et cinéma, particulièrement parce que cette année... Il semble, même si c'était toujours 13 ans au FID, qu'il y ait une accentuation de cette présence avec de nombreux films qui ont trait plus ou moins loin au texte. Et puis la présence de deux écrivains parmi les membres du jury. Donc je voulais d'abord avoir votre avis en tant qu'éditeur, puisque vous êtes notre dernier invité, savoir comment vous ressentiez cette présence forte de la littérature ici.
Je crois que ça n'est pas la première fois d'abord qu'il y a des écrivains au jury. Je pense que c'est une idée comment dire, constante de Jean-Pierre Rem, hein, de justement montrer ces liaisons, ces connexions, ces passerelles qu'il y a entre cinéma et littérature. Je pense que déjà, ne serait-ce que parce que dans le cinéma, il y a des dialogues, parce que dans le cinéma, il y a des voix off, il y a toujours un travail qui s'apparente à un travail littéraire. Et plus le travail est littéraire au bon sens du terme, hein, j'entends sans affectation, sans surécriture, plus le travail est littéraire, plus le film est nourri de littérature, plus il est porté par ce... Enfin voilà, c'est une... De même que la littérature contemporaine se nourrit beaucoup du cinéma, moi, j'aime bien cette idée qu'avait Serge Danet, selon laquelle le cinéma et tout ce qui a été fait dans le cinéma depuis sa création est une sorte de trésor dans lequel on va puiser. Et je pense que la littérature contemporaine a beaucoup puisé dans le trésor du cinéma. Et que le cinéma s'est beaucoup inspiré à travers les adaptations, c'est évident, mais aussi dans ce que je disais, enfin, dans cette présence du texte dit, parlé dans le film.
Ce sont des coffres à trésor l'un pour l'autre, finalement, la littérature et le cinéma.
Je pense que c'est réciproque.
Alors Serge Danet, que vous hébergez pour sa revue qu'il dirige, Trafic, aux éditions POL, la seule revue d'ailleurs que tient POL.
C'est donc oui, quand Serge Danet m'avait contacté, enfin c'est moi qui avais contacté Serge Danet d'ailleurs, parce que je pensais que ce serait très bien qu'il écrive des livres pour POL. Il m'avait tout de suite parlé de ce projet qui lui tenait beaucoup à cœur et qu'il voulait réaliser avant sa mort, visiblement. Enfin, c'était lancer, donner une impulsion à cette revue. Il en a vu les 4 premiers numéros. Et nous en sommes au 62e et je suis assez fier d'avoir poursuivi en tant qu'éditeur, hein, parce que l'esprit, l'âme de Trafic sont créés, sont continuellement renouvelés et créés et rendus vifs par le comité de rédaction. Et puis il y a un comité élargi autour de... Mais c'est Sylvie Pierre, c'est Raymond Bellour, c'est Patrice Rollet, qui étaient au départ de l'aventure avec Serge Danet et Jean-Claude Biette. Et il y en a deux qui sont morts et l'aventure continue quand même.
Alors il y a d'autres liens souterrains comme ça, ou clairement visibles, hein, entre le cinéma et l'illustration dans votre catalogue, POL. Je pense par exemple, alors sans parler des auteurs dont nous allons parler, qui sont spécifiquement reliés à cette programmation, comme Pérec et Duras, où là,
on les lit à chaque page pratiquement du programme du FID de cette année. Mais je pense à des gens comme Leslie Kaplan, par exemple, qui est très intéressée par le cinéma, qui écrit beaucoup dans des revues, des essais théoriques.
Et notamment dans Trafic, elle écrit beaucoup dans Trafic. Et là aussi, je pense que c'est quelqu'un pour qui le cinéma est un trésor, parce que dans tous ses livres, il est beaucoup question de cinéma, il est beaucoup question, par exemple, de Charlot, c'est un Charlie Chaplin, c'est un personnage qui revient souvent, en tout cas, qui est souvent évoqué dans ses écrits. Et je pense aussi que c'est vous savez, la France a créé le cinéma, mais enfin, le cinéma est né en France, mais la patrie, oui, pas très loin d'ici, mais la patrie du cinéma, c'est l'Amérique, hein, quand même, avec l'expansion des studios hollywoodiens, avec cette espèce d'âge d'or du cinéma américain. Et Leslie est américaine, donc il y a quelque chose comme ça, presque génétique. Hein. Je n'aime pas beaucoup me lancer dans ce genre de discours, mais enfin, je plaisante un peu en disant ça, mais il y a quand même une proximité culturelle. Et en tout cas, dans sa manière d'écrire, il y a une façon de monter les textes qui n'est pas éloignée de ce qu'est le montage au cinéma.
Montage, ça aussi, c'est essentiel finalement dans ces liens littérature et cinéma. Vous parliez de la voix et du texte écrit tout à l'heure, mais le montage compte pour beaucoup aussi.
Non, bien sûr, oui, bien sûr.
Alors je pense aussi, là on s'éloignerait peut-être, et en même temps j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Leslie Kaplan s'intéresse aussi beaucoup au lien entre la fiction et le documentaire, je dirais. Ses livres sont parfois des documentaires, en même temps construits, montés, parfois comme des fictions. C'est là aussi une thématique forte au FID cette année, puisqu'il y a des films de fiction qui sont d'une certaine façon des documentaires qui sont présentés ici. Et est-ce que vous ressentez un peu, je dirais, une sorte d'équivalence ou de parallèle dans cette articulation fiction-documentaire en littérature aujourd'hui ?
Non, je dirais que, enfin, je la ressens moins que ce que l'on peut, que je la ressens pour le cinéma, où effectivement l'effet de réel est souvent très fort dans les fictions. Et là, je dirais que pour la littérature, c'est plus compliqué. On est plutôt dans un réel, non pas documentaire, mais dans un réel psychologique, dans un réel intimiste, dans un réel. Alors là, ça peut jouer. Bon, ça m'ennuie un peu d'en reparler parce que c'est un peu une tarte à la crème. Vous voyez, on ne quitte pas le cinéma. C'est l'autofiction. Je dirais que la dimension documentaire en littérature, elle est plutôt représentée par l'autofiction. Et c'est un type de documentaire assez particulier. Mais pour ce qui est d'une équivalence par rapport au documentaire, au réel, ben là, on a des registres qui sont le récit, qui sont le document, qui peuvent être plus ou moins écrits. Moi, je publie un grand écrivain qui écrit des récits, qui écrit des documents, qui est Jean Rollin. On peut dire, en effet, mais que la littérature se préoccupe de documents et de documentaires, mais moins la fiction que simplement la littérature. Je pense que c'est au-delà de la fiction. Dans la littérature, il y a des documents, il y a des fictions. Je ne pense pas que la fiction soit très documentée, voilà, en général. Elle l'est de fait, parce qu'on ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi, mais ce n'est pas son objet.
Très documenté, justement, on a reçu Jean Echenoz il y a quelques jours, qui lui parle carrément de repérage pour écrire ses livres. C'est une sorte de documentation. Mais
oui, c'est de la documentation, c'est pas du documentaire. C'est-à-dire que, par exemple, quand il étudie à fond le paquebot, les documents qu'il peut avoir sur le paquebot qui a transporté Ravel, il instruit, il documente sa fiction, mais ça n'en fait pas un documentaire.
Alors, je voudrais qu'on explore un petit peu plus votre catalogue encore sur ces liens-là, parce que j'ai le sentiment qu'il y a certains auteurs qui sont vraiment sur les deux mondes. Alors, j'ai parlé de Leslie Kaplan, mais il y a des réalisateurs. Il y a Abbas Kiarostami, par exemple, dans votre catalogue. Je pense aussi à Robert Bobert. Jean-Luc Godard, Jérôme Beaujour qui est présent.
Chodenko qui je crois continue à être le... qui travaille beaucoup avec Garrel pour les films de Garrel, enfin, qui est son dialoguiste, son co-scénariste, enfin oui. Non, il y a plusieurs. Il y a aussi Santiago Amigorena, hein, qui est un auteur de la maison, qui est en train de réaliser son deuxième film en ce moment. Enfin voilà, c'est très.
Alors comment ça se passe l'arrivée de ces textes? C'est une tendance personnelle de votre part.
C'est une tendance personnelle. Oui, c'est une tendance personnelle. Le cinéma m'a toujours passionné. Et j'ai eu beaucoup d'importance dans ma formation, mais je crois que c'est très commun aux gens de ma génération. Hein. C'est après-guerre, c'est l'arrivée du cinéma américain, enfin pour notre génération en tout cas. Et c'est l'image, enfin, dans les cinémas de province, de quartier, de petites villes, comme j'étais moi. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que je partage avec beaucoup de gens de mon âge. Hein. Alors, j'ai voulu aussi, sans doute parce qu'il y avait une espèce de certitude, de conviction que les liens... entre cinéma et littérature existait. Il y a eu ensuite ma volonté en tant qu'éditeur de faire en sorte que le cinéma soit présent dans la maison d'édition. J'ai quand même édité 3 revues de cinéma. Hein. Donc il y a Trafic qui continue, mais j'ai édité pour un temps La Lettre du Cinéma, j'ai édité pour un temps Positif. C'était un travail sérieux, Positif, parce que c'était un mensuel, hein, quand même. C'était pas... Voilà. Donc j'ai toujours... Et puis, il y a maintenant la collection Trafic, avec des essais tout à fait remarquables, aussi bien traduits de l'anglais ou l'allemand, et que des textes français. Il y a... ces auteurs comme Godard, Amigorena, Beaujour, Chodenko, oui.
Est-ce que ces réflexions, puisque vous parlez de la collection Trafic, ces réflexions sur la création dans le cinéma nourrissent aussi votre façon de percevoir la littérature aujourd'hui? Même si tout à l'heure on parlait des liens plus directs peut-être, mais là je pense plutôt à la forme ou à ce qui fait texte est contemporain.
Je pense que ça joue énormément parce que... un lecteur, ce qu'est un éditeur, c'est un lecteur, bon, je dirais un lecteur un peu plus professionnalisé qu'un lecteur, ordinaire, enfin, sans du tout de nuance péjorative au mot ordinaire. Il est évident que moi, je lis à partir d'un espèce de magma plus ou moins délimité, plus ou moins descriptible, qui me constitue, qui sont mes lectures, qui sont les événements de ma vie privée, qui sont et de ma vie professionnelle, qui sont les lectures que je fais, oui, donc, et puis les films que j'ai vus. Donc tout ça, et comme j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, forcément ça constitue un... Voilà, j'en reviens à cette idée de trésor, hein, où ça constitue une espèce d'arrière-plan, d'arrière-fond, de domaine dans lequel je vais puiser.
À la fin de votre film, vous parlez de l'aspect hétéroclite, même si c'est une petite ville, de Sablé-sur-Sarthe. Votre catalogue l'est aussi hétéroclite, et à force de parler de ce coffre au trésor, je me demande si finalement ça n'est pas votre propre coffre à trésor, ce catalogue.
Oui, non, bien sûr, c'est un coffre à trésor. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert à l'occasion de ce film, c'est que si je faisais ce métier, c'était... Je schématise, mais en même temps, la formule est dit bien ce qu'elle veut dire. C'était pour faire parler les autres à ma place. C'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour laquelle je crois avoir fait ce métier avec les convictions qui ont été les miennes. Voilà, c'est une chose très 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 présente. Enfin, les écrivains m'ont aidé à parler. Je me suis exprimé à travers les écrivains. Et maintenant, bon, j'ai pris je m'exprime à travers je me suis exprimé une fois à travers le cinéma.
On va revenir à ça. Petite incursion encore du côté, petite ou grande, du côté des deux auteurs qui me semblent particulièrement représentés cette année, c'est-à-dire Duras et Pérec.
Qui ont tous les deux fait des films. Voilà. Pour Pérec, parce que on est. Georges Perec a fait un film qui est très célèbre avec Robert Kessan, d'abord Un homme qui dort. Je ne sais plus si c'est Robert Kessan avec Kessan, en tout cas, je ne sais plus pour le prénom. Il va être fâché si longtemps. Et puis un autre avec Robert Bobert qui est Récit d'Ellis Island, qui est très connu. Et puis il a fait un film qui pour moi est déterminant, qui est un film que j'aime énormément. J'aime aussi beaucoup les deux autres évidemment, mais celui-là m'a beaucoup aidé dans la réalisation de mon film. C'est Les lieux d'une fugue. Les lieux d'une fugue, c'est un film qui est fait sur un principe que je trouve à la fois extraordinaire et bouleversant, c'est-à-dire que Georges Perec, à l'âge mûr, 35 ans, 30-35 ans, s'est souvenu tout d'un coup, le souvenir lui est revenu tout d'un coup, d'une fugue qu'il avait faite quand il avait 10 ans, une dizaine d'années. Il était parti de l'appartement de son oncle et sa tante, et avait erré dans les rues de Paris, spécialement du côté du Carré Marigny, là où se réunissent les collectionneurs de timbres, et jusqu'à ce qu'un adulte remarque cet enfant la nuit tombée et l'emmène au commissariat de police. Mais il avait la chose extraordinaire qu'il a faite dans ce film, c'est de le construire à partir des souvenirs tels qu'il lui était revenu. C'est-à-dire pas forcément dans l'ordre chronologique. Il y a des plages chronologiques, mais la chronologie est quand même très bousculée dans le film. Et ça lui donne une fraîcheur, une vivacité extraordinaire. Voilà, alors ça, c'est pour Pérec, oui. Et quant à Duras, je dirais que la manière dont elle a su... Mais c'est la même chose avec Pérec, hein, sur des exemples moins nombreux, puisque, si j'ai bon souvenir, il n'a fait qu'un seul film de lui-même, par lui-même. Avec Duras, c'était comme donc avec Pérec, cette manière de bousculer la syntaxe cinématographique. Moi, je me souviens toujours, il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était une interview de Godard, il y a très longtemps, peu de temps après À bout de souffle, qui avait pris le contre-pied de certains dogmes, qui expliquait qu'il avait pris le contre-pied de certains dogmes de la grammaire cinématographique. On disait, admettons, je sais même pas d'ailleurs ce qu'est la règle, mais on ne fait pas suivre deux panoramiques de gauche à droite s'ils représentent des choses différentes. Quelque chose de ce genre-là. Et Godard avait fait systématiquement le contraire, c'est-à-dire avait fait exploser ou avait en tout cas court-circuité les académismes. Duras, alors là, c'est un exemple fameux. Enfin, elle fait des choses, les choses qu'elle a envie de faire, elle les fait bien à l'intérieur de ses propres critères, et ça peut heurter les critères dominants, et ça ne fait rien, elle s'en fiche.
Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous connaissez bien leur œuvre littéraire et cinématographique à Duras et Pérec, puisque vous parlez d'éclatement des règles, qu'ils avaient finalement, en passant d'une écriture à l'autre, peut-être aussi cette liberté qu'ils se donnaient à eux-mêmes d'éclater leurs propres règles?
Bien sûr, j'ai ce sentiment-là, oui, tout à fait, oui.
On va parler un peu de votre film, toujours en poursuivant cette thématique. D'abord, il y a une citation, je pense qu'elle est exacte, de vous, que vous avez dû soit donner pour un entretien, soit écrire. Vous dites « Je publie des livres que j'aurais aimé avoir écrits ».
Oui, j'ai dit ça, oui. Mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que je me suis exprimé, ça fait longtemps, mais je ne le dis plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi, parce que il ne faut pas toujours se répéter, j'imagine, mais c'est vrai, j'ai dit ça, et c'est parce que ça c'est lié à des événements qui me sont propres, qui me sont particuliers, de mon histoire personnelle, mais j'ai fait parler les autres à ma place. Oui. Et donc, mon critère de choix, c'est tiens, j'aurais aimé avoir écrit ça.
Lire aussi, j'imagine.
Bah, oui, publier, ça va ensemble. C'est à travers la lecture que j'avais ce sentiment.
Est-ce que peut-être que vous allez entendre une autre question à présent ? C'est peut-être que effectivement, on va vous demander si ce film vous l'avez écrit parce que vous l'avez réalisé, pardon, mais le lapsus est révélateur, parce que vous auriez aimé l'avoir écrit ou lu ?
Non, je crois que là, c'est vraiment. Non, pour moi, l'écriture, mais totalement. Enfin, écriture de livres, de l'écriture au sens strict du terme, mais totalement impossible. Soit que. Alors, je n'ai jamais su, hein, et je pense que c'est un aller-retour entre les deux propositions, soit que j'en sois incapable, soit que je me l'interdise. Et je pense que les deux sont exacts. Je pense que, sans faire non plus totalement porter la responsabilité aux autres, je pense que à un moment ou à un autre, on m'a interdit d'écrire. Bon, ça c'est ce que raconte le film, même si c'est pas dit dans ces termes-là. Et de toute façon, je ne m'imagine pas en tant qu'éditeur écrire. Je veux dire, c'est la fonction des écrivains, c'est pas la fonction des éditeurs que d'écrire. Donc c'est, alors je ne sais pas quelle est la part de cette première proposition ou de la précédente, de cette deuxième proposition ou de la précédente dans mon attitude, mais pour moi, alors là, j'ai écrit les textes de ce film, mais et ça représente un certain nombre de pages si on compte comme ça. Mais ces textes sont liés à des images. Ils n'existeraient pas sans les images. C'est ce que j'ai voulu en tout cas. Ça n'est pour moi. Il y a un de mes confrères qui m'a proposé de faire un livre avec les images et les textes, avec certaines images et les textes de mon film. Je dis qu'il n'en était pas question. Pour moi, ça n'est pas, on ne peut pas l'extraire du film.
Oui, c'est une question que je voulais vous poser. Justement, ce film très écrit, ce texte qui existe, cette voix off qui lit ce texte, plusieurs voix off d'ailleurs, je voulais vous demander comment ça s'était déroulé, si effectivement le texte a été élaboré bien en amont et puis les images sont venues après pour suivre ce texte.
Certains textes ont été écrits en amont, très peu, très très peu. Disons que à l'occasion du film, je les ai réécrits et développés. Il y avait une trace, une base pour deux ou trois textes, deux textes même. Et pour le reste, ce sont pour les autres textes, ce sont des textes que j'ai écrits à partir des images.
C'était difficile ?
Pas vraiment, parce que quand vous avez le support des images, c'est difficile, c'est un travail, on essaie de s'exprimer le plus justement possible. Mais quand vous avez les images derrière, c'est quand même une grosse sécurité.
Enfin, j'imagine que d'arriver à faire ce film a dû être une difficulté, parce qu'il a mis du temps à arriver dans votre démarche parcours personnel. Mais finalement, écrire les textes dans ce cadre-là, c'était apparemment plutôt facile.
Plus facile.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué ce film de Paris que je ne connaissais pas. Moi, j'ai évidemment, mais parce que vous êtes l'un des grands éditeurs de Perec, j'ai pensé à W ou Le Souvenir d'enfance, où des choses se révèlent aussi. Est-ce que vous avez
bien sûr, toute cette... tendance hein, qu'on trouve chez tous les écrivains à extraire de son passé enfoui des éléments, des choses qui donnent lieu à des œuvres, c'est quelque chose dont je me sens très proche, hein, très très proche. Alors là, c'est aussi l'époque qui veut ça, et l'atmosphère ambiante, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres aboutissent peu à peu à ce type de démarche actuellement. Bon, certains restent totalement dans la fiction et c'est très bien, mais beaucoup quittent peu à peu la fiction pour s'approcher de ce domaine de la, qui n'est pas de l'autofiction, mais qui est celui de l'élucidation de zones obscures, de moments obscurs de la vie.
Avec une mise en scène malgré tout aussi dans votre film, même si vous...
La mise en scène, c'est l'écriture du film, c'est-à-dire c'est la syntaxe, c'est la mise en œuvre de ce qu'on a. On ne peut pas se contenter de... Enfin, moi, je ne peux pas, en tout cas, de laisser ça à l'état de magma incommunicable. Donc, c'est la mise en scène, la forme. La mise en scène d'un livre, c'est son découpage, sa construction, sa syntaxe. Ça, oui, il faut vraiment y être attentif, oui, bien sûr.
Surtout que ce film parle du silence, évoque un silence tenu longtemps.
C'est le problème d'un film qui est une tentative d'expression, mais c'est celle de rendre compte du silence. C'est un peu, c'est un défi que j'ai essayé de relever à travers l'écriture, à travers évidemment l'image, mais aussi à travers le son. Enfin, c'est des choses que j'ai essayé de travailler avec le peu de moyens que nous avions pour que ça soit ou métaphorique ou métonymique du silence. Enfin.
Le film se termine par une sorte d'énumération à la Pérec, là encore, qui fait penser à Je me souviens, des noms. Et par ces mots, c'est fini. Et vous le répétez. Évidemment, on se demande en tant que spectateur si, après ça, il est possible encore qu'il y ait un autre film réalisé de votre...
Je me pose la question, j'ai très envie de continuer parce que ça a été, ça a duré 3 ans, ça a été 3 ans de grande... je dirais à la fois de grande joie, de grande détresse par moment, mais de vie très intense. Et j'ai très envie de recommencer. J'ai un projet plus ou moins élaboré, plutôt moins que plus, pour l'instant, d'adaptation d'un livre que j'ai publié. Un livre écrit par un écrivain que je publie. Et ça me plairait beaucoup. Voilà, j'ai envie de faire ça. Ce serait une œuvre de fiction, donc. Mais là aussi, je voudrais le faire de manière très, très légère, avec une équipe réduite, une équipe forcément plus nombreuse que celle de ce film, puisque du film que je viens de présenter au FID, parce qu'on l'a fait à deux. Donc, sauf à un moment ou à un autre, où on a eu besoin d'aide, notamment pour les scènes dramatiques, où il y avait des acteurs d'une part, et puis de l'autre, une maquilleuse, un assistant. Enfin bon, dès qu'il y avait un peu de monde, enfin, on était un peu non. Enfin, par rapport à la solitude à deux, donc partagée, très agréable, la quasi-totalité du tournage, ce moment était assez amusant. On était une dizaine sur le lieu de tournage, quoi.
Oui, on sent aussi finalement ce côté un petit peu ludique de la façon dont ces scènes se sont construites. On voit malgré le côté dramatique mise en scène, on sent aussi des yeux pétillants et des sourires presque qui vont se révéler. Vous avez l'impression d'avoir sorti, commencé à sortir vos propres jouets du coffre à jouets? Pour une autre naissance, peut-être.
Oui, je pense que effectivement, là, si vous voulez, quand ce projet m'est venu à l'esprit, quand j'ai commencé à le réaliser, il est évident que j'ai été épuisé dans mon coffre à jouets. Hein. J'ai entendu sur une radio concurrente une interview de Jean Echenoz où il disait qu'il allait faire son marché au FID. Et je trouvais ça très joli. Il l'a dit peut-être plus joliment. Il a dit qu'il venait, qu'il avait un peu volé, quoi, qu'il venait se mettre en situation de trouver des choses formelles, bien sûr, enfin, ou des idées. Des
choses. Ça laisse augurer de beaucoup de choses agréables.
Il ne faut pas se contenter de le vider. Il faut le remplir aussi. Hein. On ne peut pas. C'est un bizarre coffre à jouets parce qu'on ne peut pas se permettre de remettre dedans les jouets dont on s'est servi.
Ah oui, là, on le sent vraiment aussi avec ce film. Voilà, c'est, je pense que c'est le sens des mots qui terminent
film. C'est fini, c'est fini. Si je l'ai redoublé, cette expression, c'était pour montrer que c'était vraiment fini, c'est-à-dire... c'est comme un enfant à qui on dit « c'est fini, ton bobo, c'est fini ». Enfin bon, je prends une image un peu légère, un peu facile, mais un gros chagrin, c'est fini. Voilà. En même temps, c'est le film qui est fini, mais c'est aussi quelque chose d'une époque qui est révolue. Voilà.
On n'a pas parlé du vrai sujet du film, on a parlé du silence, mais je pense que c'est très bien comme ça, pour que les gens aillent le découvrir. Merci Paul Tchaïkovski, Laurence.
Merci
de votre film. Je vous signale, pour prolonger le sujet, qu'on pourra trouver dans le hall du Théâtre de la Criée, à la librairie tenue par l'Histoire de l'œil, quelques livres de votre maison d'édition, des auteurs dont nous avons parlé. Et puis, dorénavant, le prochain rendez-vous de À l'air livre, c'est à la rentrée au mois d'octobre. Merci.
Bonne rentrée.